avec Carlos Araujo, le porte-parole AI de la MONUSCO.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, membres de la presse, auditeurs de Radio Okapi, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire. Nous avons avec nous aujourd'hui trois invités spéciaux, à savoir le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, M. Martin Kobler, à partir de Goma, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, chargé des opérations à l'Est, le général Abdallah Wafi, aussi à Goma, et le chef du bureau de la MONUSCO à Goma, M. Rey Torej, à partir de Goma aussi. Ici à Kinshasa, nous avons avec nous nos collègues de l'équipe pays des Nations Unies, représentés par Dorothée Klett pour le pilier développement et Sylvestre Ntumba Mudingai pour le pilier humanitaire. Nous commençons par les activités de la MONUSCO, appui au processus électoral dans la province de Nord Kivu, notamment dans le territoire de Rutshuru. Le secrétariat exécutif provincial de CENI et la section électorale ont effectué le mercredi 6 novembre 2013 une mission d'évaluation à l'antenne de la CENI, jadis pillée par les rebelles du M23. L'objet de la mission était d'établir un état des lieux en vue de proposer à la hiérarchie la réouverture de l'antenne de la CENI Rutshuru après la reprise de ce territoire par les FRDC. Les agents de l'antenne CENI Rutshuru ont fait partie de cette délégation dont le déplacement a été rendu possible par la MONUSCO. Dans le territoire de Nyarugongo, les agents de l'antenne poursuivent la recherche des fiches d'identification des électeurs dans la paperasse éparpillée de l'entrepôt après le pillage enregistré lors de l'occupation de ces territoires par les rebelles du M23. Nous donnons maintenant la parole à notre collègue de l'équipe pays, Dorothée.
Merci Carlos, bonjour à tous. UNMAC, le centre de coordination de la lutte anti-mine en RDC, nous annonce que suite au récent conflit armé observé entre les FRDC et le M23 dans le Nord Kivu, entre le 25 octobre et le 6 novembre, UNMAC a conduit plusieurs évaluations sur la contamination par engins non explosés à Chanzu, Rioni, Rutshuru et Nyiragongo. Ces enquêtes ont révélé une contamination très importante par résidus explosifs de guerre et munitions abandonnées dans ces régions. Le 5 novembre, les FRDC ont annoncé avoir saisi environ 300 tonnes d'armes et de munitions dans la zone de Chanzu, qui servait de base au M23. Dans un communiqué publié le 8 novembre, OCHA s'est récemment inquiété des dangers que représente la présence massive de ces engins non explosés et munitions abandonnées pour les populations déplacées et pour l'accès des organisations humanitaires à ces zones affectées par le conflit. UNMAC a donc déployé en urgence deux équipes spécialisées dans la destruction des engins non explosés pour entreprendre des opérations de neutralisation et de nettoyage visant à prévenir les accidents dans la population civile. Avec l'aide de ses partenaires nationaux et de Radio Okapi, UNMAC a également renforcé ses campagnes de sensibilisation dans le Nord Kivu sur les dangers que représentent les résidus explosifs de guerre afin d'encourager les populations locales à adopter des comportements responsables et d'éviter ainsi les accidents. Une communication du PNUD à présent, donc du Programme des Nations Unies pour le Développement. La province orientale veut reprendre sa place comme pôle de développement socio-économique de référence. À cette fin, elle organise sa première table ronde entre bailleurs de fonds, opérateurs privés et publics. Avec le soutien du PNUD, la collaboration de l'UNICEF et de très nombreux autres partenaires, le gouvernement provincial veut transformer cette province en pôle de développement socio-économique de référence. À Kisangani, ces 13, 14 et 15 novembre, plus de 200 personnes participent à cette table ronde qui constitue une innovation à l'échelon de la province et du pays. Seront présents autour de la table les partenaires au développement, les institutions nationales et provinciales, la société civile, le secteur privé, le PNUD et d'autres partenaires. Les thèmes suivants seront abordés, la gouvernance économique et le climat des affaires, l'agriculture et le développement rural, les infrastructures de transport et d'énergie, les secteurs sociaux, éducation et santé, ainsi que les mines et le tourisme. Une attention particulière sera portée aux questions de stabilisation politico-économique, de consolidation de la paix et du genre. À l'issue de cette table ronde, une cartographie des interventions des bailleurs et des opérateurs économiques sera établie, une feuille de route validée et un comité de suivi, évaluation sera installé. Ceci en conformité avec le DSCRP, donc le document national de stratégie de croissance pour la réduction de la pauvreté, qui est traduit au niveau provincial en plan quinquennal de croissance et de l'emploi et en programme d'action prioritaire. Cette table ronde de Kisangani est une innovation dans le pays. Sa réussite et les engagements concrets qui en sortiront encourageront certainement les autres provinces à s'inspirer de cette méthode de concertation pour, à leur tour, inciter les investisseurs et les opérateurs à participer au plan de réforme et de relance économique qui aura à terme un impact au niveau national. Une communication de l'UNESCO au sujet des radios communautaires et associatives. En collaboration avec la Fédération des radios de proximité du Congo, l'UNESCO organise du 19 au 20 novembre 2013 à Kinshasa un atelier d'experts sur les problématiques du développement des radios communautaires et associatives en République démocratique du Congo. Cet atelier a pour objectif majeur l'identification et la définition des orientations stratégiques sur le développement des radios communautaires et associatives pour la période de 2014 jusqu'à 2018. Il permettra aux différents experts de déterminer les actions à mener sur 5 différents plans, les réformes juridiques et institutionnelles en faveur de ces médias, ainsi que la modernisation de leurs services de production, également leur viabilité et leur rentabilité, aussi l'adaptation de leur mission aux défis du développement du pays et encore le renforcement des capacités des acteurs, des médias communautaires et associatifs. La FAO, à présent, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, annonce que 20 experts mettent en place une stratégie viable pour conserver la biodiversité et la fonction de l'écosystème forestier dans le bassin du Congo. Donc une vingtaine de participants, constitués essentiellement de chercheurs, d'experts et de consultants, viennent de clôturer à Kinshasa un atelier de 4 jours sur la gestion durable du secteur de la faune sauvage et de la viande de brousse en Afrique centrale. Du 5 au 8 novembre, ces participants venus de l'Italie, du Gabon, de la République du Congo, de la République centrafricaine ainsi que de la République démocratique du Congo se sont accordés avec les partenaires de cofinancement sur les méthodes et les outils à appliquer sur le terrain. Les partenaires appuient alors en premier lieu l'établissement de structures communautaires et des aires de chasse sous un régime de gestion communautaire. Ensuite, des systèmes financiers et viables. Troisièmement, l'établissement de systèmes participatifs et scientifiques. Et enfin, des inventaires de base et des inventaires écologiques. Les résultats issus de cet atelier technique avec les partenaires seront utilisés dans le processus de développement et de gestion des connaissances. Financé par le Fonds pour l'environnement mondial pour une durée de 5 ans, le projet qui est mis en œuvre par la FAO vise à démontrer que la gestion participative de la faune sauvage est une stratégie viable pour conserver la biodiversité et la fonction de l'écosystème forestier dans tout le bassin du Congo. Merci.
Merci Dorothée. Nous allons maintenant à Goma où nous avons aujourd'hui 4 invités spéciaux. Et pas seulement 3, comme j'ai annoncé au début de cette conférence de presse. Je vais rappeler, c'est le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, chargé des opérations à l'Est, général Abdallah Wafi, le chef du bureau de la MONUSCO à Goma, monsieur Urey Torej, à partir de Goma, le commandant des forces de la MONUSCO, général Carlos dos Santos Cruz, et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Martin Kobler, à qui je donne maintenant la parole.
Bien, Carlos, et bienvenue aux auditrices, auditeurs de Radio Okapi, aux membres du corps de presse ici à Goma et à Kinshasa. Vous voyez ici où le centre de gravité de la MONUSCO est à l'instant, c'est ici à Goma. Parce que nous avons ici, comme vous avez dit, Carlos, nous avons le commandant de la force ici. Nous avons maintenant mon adjoint, le général Wafi, qui est ici en permanence. Et moi, je suis à Goma et à Kinshasa en même temps. Première remarque. Nous revenons, le général et moi, maintenant, tout à l'heure, de la zone frontière entre Rwanda, Ouganda et la RDC. RDC pour voir la géographie, pour voir la manière du contrôle de la frontière, mais aussi de vérifier la vérification de la frontière par la MONUSCO. Nous avons été à Kibumba, nous avons vu par là l'école, mais aussi parlons avec la population là, et j'ai vu à Kibumba des faces heureuses, des gens qui sont vraiment libérés des combats du M23. J'ai aussi parlé, nous avons parlé avec le commandant de la FRDC là pour vérifier comment le système de contrôle de la frontière est dans cette région, et je dois dire, j'ai une très très bonne impression sur ce qui se passe par là. Nous avons aussi eu l'impression qu'il faut vraiment promouvoir la consolidation et restauration de l'autorité de l'État dans les zones qui sont libérées. C'est une chose qui va être vous dit par le général Wafi ici, parce que maintenant je suis heureux de vous dire, nous avons toujours dans nos conférences de presse hebdomadaires un point spécial, restitution de l'autorité de l'État et le rôle de MONUSCO. Je crois que c'est très important. Ça doit être effectué maintenant parce que les gens sont seuls, la plupart d'entre eux. On a la sécurité, la stabilité, mais maintenant il faut promouvoir de restituer les écoles et les hôpitaux. Monsieur Wafi va présenter les détails. En ce qui concerne Kampala, j'étais là il y a quelques jours à Kampala pour attendre avec les autres envoyés spéciaux les pourparlers de Kampala. C'est regrettable, et les cinq envoyés spéciaux ont regretté qu'on n'avait pas une signature de du document là, mais nous sommes de l'avis que le processus de Kampala doit continuer. La substance, on n'avait pas de différence dans la substance. L'amnistie, la réintégration, les questions de propriété, le régime sécuritaire, mais c'était seulement le format, le titre de ce document. Alors, et je crois que ça doit être résolu bientôt. Il est vrai que la situation militaire a changé maintenant avec la fin du combat entre la FRDC et le M23. Maintenant, on a les ex-combattants en Ouganda, la plupart d'entre eux, mais le problème politique ne disparaît pas. Le problème politique ne disparaît pas, le problème militaire est disparu, mais pas le problème militaire. C'est pourquoi il faut continuer. Et on doit trouver aussi rapidement, une solution pour les ex-combattants du M23 qui sont maintenant à Ouganda dans les camps. Le gouvernement ougandais dit que ce sont à peu près 1400. On va voir, mais il faut trouver une solution pour les ex-combattants. Ce sont nos compatriotes, ce sont des Congolais, ils doivent rentrer au Congo, ils ne peuvent pas rester toujours en Ouganda, dans les autres endroits. Nous avons aussi, encore une fois, comme 5 envoyés spéciaux, clarifié notre position sur l'amnistie. Si les ex-combattants rentrent, on ne doit pas avoir l'amnistie pour ceux qui ont commis des crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, génocide et d'autres grosses violations des droits de l'homme, y inclut les enfants soldats et les violences sexuelles. Voilà, merci bien. Je donne la parole à mon adjoint qui maintenant est ici en permanence pour suivre avec le bureau, avec Ray Torres ici, notre bureau ici, de le renforcer, de suivre la consolidation d'autorité de l'État. Pour nous, pour la MONUSCO, c'est très important d'avoir le gouvernement involu dans la restitution, et nous aidons comme la MONUSCO. militairement, c'est clair que nous poursuivons maintenant le combat contre les autres groupes armés. Le M23, c'est maintenant résolu militairement. Il faut maintenant voir ce qu'on fait. On a le mandat de combattre contre tous les groupes armés, y inclus les FDLR. C'est la priorité maintenant, mais aussi les groupes Maïmaï qui sont ici avec l'objectif de restituer l'autorité de l'État dans chaque mètre carré à l'est du Congo, parce que je l'ai vu aujourd'hui encore une fois, de l'hélicoptère, mais aussi par terre. C'est un pays riche. C'est un pays riche avec une population forte, avec une jeunesse forte. Alors il faut résoudre le problème, les problèmes politiques maintenant. Il faut encourager le gouvernement de consolider leur autorité dans les territoires libérés. Merci bien. Et,
Merci Monsieur le représentant spécial. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est aujourd'hui ma première conférence de presse à partir de Goma en ma nouvelle qualité de représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations à l'est de la RDC, avec pour base opérationnelle la ville de Goma. Comme l'a dit le représentant spécial, j'aurai l'occasion, au cours de ces rencontres, de vous faire un point sur les efforts que sont en train de faire et le gouvernement de la RDC et l'appui que la MONUSCO apporte aux autorités gouvernementales pour pouvoir restaurer l'autorité de l'État, redéployer l'administration, la police, la justice dans toutes ses zones. Aujourd'hui, il est extrêmement important, à la fin des opérations militaires, de pouvoir redéployer l'administration civile, pour pouvoir surtout les institutions de sécurité, pour pouvoir protéger la population et permettre un retour de plus en plus normal vers des activités de développement. Par rapport à cela, vous le savez, tout de suite après le départ du M23, l'administration civile territoriale, notamment l'administrateur de Rutshuru, a été réinstallée. Au niveau de la police nationale congolaise, la police de la MONUSCO a appuyé le plan d'urgence de déploiement de la PNC. Près de 200 éléments de la police nationale congolaise ont été redéployés dans ces zones. Nous avons discuté le plan maintenant de redéploiement global et la semaine dernière, j'ai eu une rencontre à Kinshasa avec toute la hiérarchie de la police nationale congolaise et la police de la MONUSCO pour pouvoir voir comment nous allons les appuyer. Ainsi, après la mission d'évaluation qui est venue ici au Nord Kivu, envoyée par la PNC, il a été retenu que 300 éléments de la PNC venant de la Légion nationale d'intervention vont être déployés pour appuyer la PNC du Nord Kivu. La MONUSCO s'est engagée à faire un pont aérien pour transporter ces 300 éléments de Kinshasa sur Goma et ensuite, à partir de Goma, appuyer leur déploiement selon le plan qui a été fait avec la PNC. En plus de ces 300 éléments, près de 900 autres policiers venant des autres provinces vont converger vers Goma pour pouvoir être redéployés dans toutes ces zones, que ce soit à Kiwanja, Rutshuru ou Rumangabo, et pourquoi pas dans d'autres territoires qui seront bientôt libérés, pour pouvoir renforcer la présence de l'autorité de l'État. Nous avons envoyé une mission d'évaluation pour faire un peu l'état des lieux dans ces zones qui ont été libérées. Je peux vous dire qu'en dehors du commissariat de Kiwanja, l'ensemble des infrastructures sont en plus ou moins bon état, simplement tous les biens mobiliers, logistiques ont été pillés, y compris les archives, emportées. Il est donc extrêmement important de pouvoir très rapidement mobiliser aussi bien les autorités gouvernementales au niveau central qu'au niveau de la MONUSCO pour voir dans un programme d'urgence comment faire pour soutenir ce redéploiement rapide, mais aussi à plus ou moins longue échéance, comment mobiliser des ressources pour pouvoir appuyer, reconstruire jusqu'à la mise en œuvre du programme STAREC, qui lui, comme vous le savez, STAREC est la stratégie internationale, qui est un programme à plus ou moins long terme. Au niveau de la prison de Rutshuru, de la justice de paix, le bâtiment est fonctionnel. Nous avons discuté avec la ministre de la Justice au niveau de Kinshasa pour voir comment, très rapidement, rendre fonctionnel le tribunal de paix et, s'il le faut, appuyer le redéploiement de magistrats, même à partir de Kinshasa, le but étant de renforcer l'administration de la justice pour obtenir un fonctionnement normal et régulier de l'ensemble de la chaîne pénale, c'est-à-dire la police, la justice et même la prison qui est actuellement occupée par les FRDC qui en ont fait une espèce de centre de détention. Nous allons très bientôt les engager pour que le personnel pénitentiaire puisse être déployé pour pouvoir rendre à la prison sa fonction primaire, qui est une prison civile. Voilà très rapidement ce que je voulais vous dire, mais aussi à travers l'équipement et la construction d'infrastructures qui vont être faites à travers des projets à impact rapide, où nous avons réussi à mobiliser des ressources. Donc, dans les jours à venir, je vais, au cours des différentes rencontres, faire le point des fonds qui ont été mobilisés, des actions à moyen terme qui vont être conduites, que ce soit dans le cadre de l'appui de l'administration territoriale, de l'administration de la police, de la justice et des prisons. En plus de cela, je voulais aussi vous informer qu'au niveau de la MONUSCO, nous avons décidé de créer des secteurs de la police des Nations Unies à Masisi, à Kiwandia, dans les jours à venir, pour que la police des Nations Unies se déploie aussi pour assister, conseiller et suivre les activités de cette police que nous aidons à redéployer dans ces zones et pouvoir s'assurer que la police qui est déployée, les services judiciaires fonctionnent conformément aux standards internationaux. Voilà, très rapidement, je suis à votre disposition. Si vous avez des questions particulières, je serai bien heureux de me répondre. Je vous remercie.
Voilà. Avant d'entrer en questions et réponses, vous avez vu maintenant un adjoint très très énergétique et un avocat des activités des MONUSCO ici, conjointement avec le bureau. Avant d'aller, est-ce qu'il y a vous avez quelque chose à ajouter, non? Ray, vous avez quelque chose à ajouter? Allez-y.
Brièvement, trois choses. Bonjour tout le monde. Premièrement, de souligner le pilotage très dynamique du gouvernorat en tout ce qui concerne les activités à mener à bien dans les zones libérées par le M23. Je pense que c'est très important de le souligner. Il y a une véritable volonté du gouvernement de la province du Nord-Kivu à prendre le pilotage et le leadership de ces activités. Deuxième point, vous informer brièvement, je pense que vous êtes déjà tous au courant, qu'hier j'ai accompagné le ministre provincial de l'Intérieur à Pinga dans une mission d'ouverture de possibilités, de peut-être même de la dernière chance, pour dire aux membres du NDC Tcheka qu'il est encore temps et qu'il existe encore des possibilités de se rendre et d'éviter un nouveau conflit dans cette zone-là. Le ministre provincial, je pense, a été très clair dans ses termes et dans l'urgence de la situation. Le troisième point que j'aimerais partager avec vous, c'est que depuis la victoire et la bataille, l'issue positive de la lutte contre le M23, nous observons un nombre croissant de membres d'autres groupes armés qui se rendent soit au FARDC, soit à la MONUSCO. C'est quelque chose de très important qu'il faut continuer à encourager. Je pense que ces gens ont tout à fait raison, qu'ils ont compris que le chemin de la paix est celui qu'il faut emprunter, que ça ouvre d'énormes possibilités, pas seulement à eux-mêmes en tant qu'anciens combattants, mais aux communautés d'où ils proviennent. Donc je voulais partager avec vous ce début de bonnes nouvelles que nous espérons voir se renforcer dans les jours et les semaines à venir. Merci beaucoup.